Dobesch. Le CH qui poursuit son long voyage demain du côté de New York. Et au centre Vidéotron, quelle fin de match. Victoire de 3-2. 4-3, pardon, des Remparts de Québec pour prendre les devants 2-1 dans la série. Match numéro 4 ce soir.
Marceau. Le matin.
C'est moins 1 degré sur Québec avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de moins 5. C'est des nuages pour aujourd'hui avec des probabilités d'averse et d'averse de neige et de pluie. De la brune aussi à certains endroits. Des températures stables à près de plus 1 degré. Ce soir, cette nuit, généralement nuageux avec 40% de probabilité d'averse de neige ou de pluie en soirée. Minimum de moins 5 degrés. Demain, jeudi, une belle journée ensoleillée pour terminer la semaine de travail, maximum de plus 4 degrés. Et vendredi, journée de congé, mon Jeff, ce sera de la neige ou encore de la pluie, avec un maximum de plus 5 degrés.
J'ai hâte qu'on ait plus de neige.
Le mot vétusté, il est dur à dire, mais on va l'utiliser pareil. On parle de sous-financement chronique, détérioration rapide à venir, qui sont directement sous nos pieds. On parle bien sûr du réseau de distribution et de traitement des eaux, qui est devenu à la grandeur du Québec un goulot d'étranglement de la crise du logement. C'est une étude qui a été commandée par le groupe Tactique sur l'eau, qui est une alliance hétéroclite de promoteurs immobiliers, d'urbanistes, d'entrepreneurs et en construction, et de firmes de génie conseil. On est allé chercher des chiffres du côté de la presse. On dit que la moyenne d'âge, OK, pour ce qui est des tuyaux, donc la moyenne d'âge actuelle est de 49 ans. Mm-hmm. Leur durée de vie moyenne, normalement, est supposée d'être 33 ans.
Puis ça, c'est la moyenne à 49.
Pour les eaux usées, c'est à peine mieux, ce qu'on nous dit. Donc, pour les eaux usées, c'est une moyenne d'âge de 34 ans pour une durée de vie de 36 ans. Et pour l'instant, il y a 10 % des infrastructures d'eau qui sont en très mauvais état ou encore en mauvais état. On a le plaisir d'en jaser avec mon invité qui se nomme Bernard Bigras, qui est président de l'Association des firmes de génie conseil, qui est au bout du fil. Bonjour, M. Bigras, merci d'être là.
Ben merci à vous, messieurs.
C'est-tu aussi atroce qu'on puisse le penser? Puis, il y a de ça quelques années, M. Bigras, il y avait un article, si je ne me trompe pas, ça avait été mentionné dans le Journal de Montréal, où on mentionnait qu'à certains endroits, sur l'île de Montréal, on venait tout juste de remplacer des conduites d'eau potable qui étaient en bois.
Oui. Écoutez, effectivement, il y a deux choses dans ça. Il y a les conduites dont vous parlez, mais les chiffres que vous venez de présenter, pour moi, c'est encore plus inquiétant parce qu'on parle pas de conduites, mais on parle d'ouvrages d'eau usée et d'eau potable. Ça veut dire, c'est pas les veines du système, mais c'est le cœur même d'un système d'alimentation en eau potable. Donc, les chiffres que vous avez énoncés, c'est pour le cœur même de notre système hydrique. Alors ça, oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant pourquoi? Parce que c'est un enjeu pour nous qui est sanitaire, là, au-delà des enjeux d'infrastructure, d'être capable d'offrir à une population une eau de qualité, c'est fondamental.
C'est un service essentiel.
C'est un service qui est carrément essentiel. Puis je vous dirais, il y en a beaucoup qui ne le voient pas. Puis vous avez parlé de la région de Montréal, mais c'est aussi un enjeu environnemental parce que si les usines d'épuration des eaux, par exemple, ne sont plus en mesure de prendre, acheminer aux usines, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire des surverses dans le fleuve Saint-Laurent. Alors là, vous voyez, c'est un engrenage qui prend forme puis qui amène une détérioration, je vous dirais, complète et sociétale, là. Donc, on n'est plus dans un enjeu strictement technique, mais on en vient à des enjeux sanitaires, environnementaux, puis de développement économique. Développement économique, pourquoi? Parce qu'aussi, actuellement, les fils ne sont plus en mesure d'adopter les plans d'aménagement d'ensemble parce que les systèmes ne sont plus en mesure, et nos collègues de la PCHQ l'ont très bien exprimé, là. C'est incroyable, il y a plusieurs projets qui sont mis en suspens parce que les réseaux ne sont pas capables de prendre là cette pression. Puis cette pression-là, je vous dirais qu'elle va être encore plus forte dans les prochaines années, nonobstant le volume qui va grandir et de la désuétude, c'est que les changements climatiques vont venir mettre une pression considérable sur les réseaux d'eau usée et d'eau potable au Québec. Donc, la pression va être énorme. On le voit en Alberta, c'est le maire de Québec, je pense, dans une conférence de presse qui nous présentait le cas de l'Alberta, où en plein été, là, on leur dit, écoutez, vous allez limiter vos douches à 3 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y a des périodes de sécheresse. Parce qu'il y a des périodes de sécheresse. On rit, mais c'est pas drôle. Mais en même temps, il doit y avoir des mesures à plusieurs égards, limiter notre consommation, renforcer les infrastructures. Et vous savez, on ne sera pas en mesure d'offrir des services si nos infrastructures sont en bon état.
Bernard Bigrand, comment on a fait pour en venir à un point où on se dit « Tabarouette, là, il faut y aller pour de l'investissement massif. Ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. » Il n'y a pas un entretien préventif qui est fait sur ces infrastructures-là. Il n'y a pas de l'argent qui est octroyé chaque année, un budget qui sert. Bon, ben ça va devoir être remplacé, patati, patata. Est-ce que c'est uniquement de la négligence qui fait en sorte qu'on est autant dans le trouble?
Ben, je vous dirais que c'est d'abord le constat là, il a été fait il y a, je vous dirais, une trentaine d'années là. C'est pas quelque chose pour laquelle on prend connaissance là aujourd'hui. Moi, je me rappelle là, à l'époque, il y a une coalition qui avait été mise en place par des maires il y a une trentaine d'années pour dire il faut investir dans nos infrastructures parce qu'on inévitablement, on va arriver à la limite de la vie utile de ces infrastructures-là. Mais vous savez, en matière d'infrastructure, moi, je compare souvent nos gouvernements puis les budgets gouvernementaux à un budget familial. Puis je donne souvent cet exemple-là. Vous avez une maison hein, qui a été construite dans les années 50. Vous avez un terrain à l'arrière. Puis vos enfants arrivent à un moment donné puis vous disent au printemps, hey, ce serait le fun d'avoir une piscine dans la cour. Hein? Il me semble qu'on passerait un bel été. Mais en même temps, vous savez fort bien que votre maison des années 50, ben il faut changer le toit. Et peut-être qu'il faut aussi changer le drain français autour de votre maison. Hein? Un système qu'on voit pas puis qu'on pense qu'il est pas utile. Ben à première pluie diluvienne qui survient, ben vous avez de l'eau dans votre sous-sol. Voyez, mais pourtant vous avez fait le choix de vous doter d'une piscine creusée à l'arrière de votre cour. C'est un peu comme ça au fond qu'il faut voir les budgets gouvernementaux. Vous avez le choix là, vous avez décidé là, c'est choisir. Alors c'est pas facile de choisir, mais il faut faire des choix. Vous avez le choix de construire un centre aquatique. Vous avez le choix de construire un centre multifonctionnel. Vous avez le choix de mettre à niveau vos usines d'eau usée, d'eau potable. Vous avez le choix de changer les conduites. Mais en bout de ligne, ce choix-là, vous devez l'assumer. Et donc, il vient un moment donné que si vous avez fait le choix d'emprunter à la banque pour vous doter d'une piscine creusée à l'arrière, nos gouvernements sont dans la même situation. Ils n'ont plus de marge de manœuvre financière pour trouver des solutions à des ouvrages qui sont essentiels à ce qu'on appelle le maintien des actifs. Alors voilà, je réponds globalement à votre question, mais je vous dirais que il faut être capable de faire des choix et ça prend du courage pour le faire. C'est pas visible une conduite d'eau potable, vous savez, dans une rue. C'est pas mal plus attrayant et visible un centre aquatique, tout comme une piscine d'ailleurs. Mais il y a des choix qui doivent être faits. Et nous, ce qu'on dit, tout comme l'Ordre des ingénieurs du Québec, il faut que le gouvernement mette en place des mécanismes indépendants. Il faut pas que ça soit là à la merci des choix politiques, parce que nos politiciens, on le sait là, ils sont et c'est correct, ils sont influencés par leurs électeurs, mais il vient un moment donné où il faut prendre des décisions qui sont rationnelles et qui vont permettre de protéger les générations futures.
Monsieur Bigrand, est-ce qu'on est déjà rendu trop tard pour ces solutions rationnelles-là? T'es, je regarde 49 ans, l'âge moyen des infrastructures. Je vois que le coût de l'acier a augmenté de 83%, le béton de 32%, l'aluminium de 48%. Je me dis, hey, ça n'a juste pas de bon sens, les coûts maintenant, puis avec le retard qu'on a, on s'en sortira jamais.
Ben, écoutez, c'est sûr que si on a une approche qui est traditionnelle, effectivement, ça va devenir difficile. Donc, le choix qu'on doit faire, c'est un choix d'optimisation. D'abord, la première chose qu'on doit faire, là, moi je l'ai dit, là, comme d'autres, il faut dépolitiser le choix. Et deuxièmement, il faut faire une faut prioriser stratégiquement certaines infrastructures. Il est clair là que dans l'ensemble des infrastructures, là, je suis un peu plus au plan du grand ensemble, on pourra pas tout faire. Maintenant, il y a peut-être des solutions qui peuvent être apportées dans certains cas Puis je sais que c'est un grand débat, l'enjeu des compteurs d'eau, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ça, c'est une solution qui peut être apportée dans certains cas, dans certaines municipalités. Dans certains cas, il faut investir dans la mise à niveau de nos conduites parce qu'elles fuient et donc on a des pertes importantes d'eau dans nos municipalités. Donc, si on réussit à investir, à renforcer notre système de conduite, bien, ça va amener moins de consommation dans nos usines d'épuration. Et à l'inverse, quelquefois, on n'a pas le choix. Il faut réaliser des projets majeurs. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que le gouvernement doit prendre conscience d'une chose, c'est que des ouvrages d'eau usée et d'eau potable, ce sont des projets qui sont complexes, de type industriel, qui peuvent prendre, là, dépendamment d'un projet typique là, de bon niveau, là, très facile, de 2 ans, mais ça peut aller jusqu'à 8 ans. Donc, dans notre planification, c'est pas parce qu'on va annoncer, hein, une usine d'épuration ou la mise à niveau d'une usine d'épuration demain matin qu'on va en voir la résultante et la production dans les mois puis les années qui vont venir. Alors, il faut un séquençage, il faut une optimisation des choix techniques et surtout, il faut dépolitiser les investissements dans les infrastructures.
Parce que, tu sais, on dit que, bon, les Québécois consomment beaucoup trop d'eau potable par rapport au reste du Canada. Ça, c'est des statistiques qu'on nous a sorties. Moi, je suis prêt à avaler, là, le fait qu'on consomme beaucoup d'eau, puis on la considère toujours comme acquise, cette eau-là. Puis, mais j'ai l'impression que ça t'offre pas longtemps. Puis à un moment donné, bien, ils vont nous limiter. Mais il y avait un article qui avait été écrit en 2017 concernant l'eau potable. Et M. Bigras, en 2017, seulement sur l'île de Montréal, on traitait l'eau potable, on la renvoyait dans les canalisations et on perdait 31% de cette eau potable-là. Mm-hmm. Donc, comment on fait pour évaluer et dire que c'est les Québécois à travers le Canada qui consomment le plus d'eau, alors que nos propres infrastructures, après qu'on ait traité toute cette eau potable-là, l'envoient dans des canalisations qui, jusqu'à il y a de ça quelques années, étaient encore en bois, des canalisations qui sont désuètes à la grandeur de la province. Et là, après ça, on se sert de ça pour nous dire, ben là, vous faites pas, vous êtes pas correct, on nous fait la morale, puis on va nous crisser un compteur d'eau pour nous charger un prix de fou, puis là, ben, on va prendre cet argent-là puis on va dépenser à bon escient sans s'occuper des infrastructures. Il faut que ça commence par eux. Ils doivent montrer l'exemple. Puis moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avancez dans l'article que j'ai pu lire dans la presse de ce matin. Faut commencer à penser à ça, puis faut faire attention pour les générations futures.
Là. Exact. Et il faut... Vous savez, je le répète, c'est pas juste un enjeu technique. C'est une intégration dans la prise de décision. C'est-à-dire que les villes, actuellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé, hein, on l'a vu là avec les années 50, les années 60, beaucoup 70, le territoire s'est développé. Il y a eu beaucoup d'urbanisation, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nos infrastructures et les investissements dans les infrastructures ont suivi le développement de l'aménagement du territoire? Et force est de constater aujourd'hui que ce n'est pas le cas. S'il y avait eu des investissements progressifs nous permettant d'arrimer nos capacités à nos besoins, bien, fort probablement qu'on ne serait pas dans cette situation-là. Alors là, on est dans une situation où nos systèmes ne sont pas capables de supporter le développement. Ça met à mal notre développement économique et ça appauvrit notre collectivité. Parce qu'il faut en créer de la richesse. Hein? Moi, je suis de ceux qui croient qu'au Québec, on doit créer de la richesse. Parce que c'est comme ça, collectivement. Puis créer de la richesse, c'est pas juste créer la richesse pour les uns ou pour les autres. C'est de créer de la richesse pour tout le monde. Alors, une infrastructure publique, c'est une richesse collective, et dans ce sens-là, je pense qu'il y a la nécessité de mettre à niveau rapidement nos, et on va parler aujourd'hui de l'eau usée et de l'eau potable, mais on pourrait parler de nos écoles, on pourrait parler de nos hôpitaux. Exact. Vous et moi, là, serons-nous capables, je veux bien croire qu'il faut investir en éducation, mais pour être capable de rendre des services éducatifs, encore faut-il que nous ayons des écoles qui ne contiennent pas d'amiante, que des écoles qui n'ont pas des taux qui sont anormalement élevés au niveau de la qualité de l'air. Donc, il faut... Les infrastructures, là, c'est la base du développement sociale et économique du Québec, puis il faut que les gouvernements en prennent conscience.
Je vais vous donner un exemple qui s'est passé au début des années 90. Je travaillais chez Ronald McDonald. Ma première vraie job là, rémunérée, c'était chez Ronald McDonald, puis on m'avait donné comme responsabilité l'entretien préventif de la machine à cornet. Fait qu'à tous les jours, je devais vider la machine à cornet, je devais la nettoyer, puis après ça, je devais... chaque petite pièce, là, je devais les nettoyer. Et dans le manuel d'entretien préventif, M. Bigras, là, on me disait, la pièce 277, elle va durer 3 mois. Puis après 3 mois, ben, tu vas devoir la remplacer par une autre pièce 277. Puis on devait suivre ce manuel-là à la lettre. Puis de ce que je comprends, McDonald's lésinait pas sur le budget. C'est-à-dire, on a besoin de la machine à cornet. Voilà. Faut qu'elle soit toujours optimale. Puis tu dois suivre le manuel d'entretien. Puis il n'y a pas d'intervention politique en disant, hey, on peut-tu couper 30% du budget sur la machine à cornet? Fait que si une entreprise privée peut se respecter de cette façon-là, je pense que nos municipalités aussi peuvent se respecter, puis de laisser les politiciens de côté qui connaissent absolument rien à votre job, puis laisser cette job-là à des professionnels qui sont capables de la faire, l'entretien. Puis s'ils ont besoin d'un moteur ou d'un morceau de tuyau supplémentaire, pas avoir à se poser la question, hey, là, on peut-tu faire une conférence de presse avec ça? Non, on ne peut pas faire de conférence de presse avec ça. Fait que tu sais quoi, ce 50 000-là, on va le mettre ailleurs parce qu'on va pouvoir faire une conférence de presse avec l'investissement de 50 000.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que ce que vous venez de nous dire, c'est qu'au fond, l'entretien de nos infrastructures, c'est la responsabilité de tous aussi.
Ben oui.
C'est pas juste la responsabilité de l'ingénieur, c'est pas juste la responsabilité de l'architecte, c'est pas juste la responsabilité de l'entrepreneur général ou spécialisé, c'est aussi la responsabilité du propriétaire de l'infrastructure. Donc, et vous venez de le dire, c'est vrai pour les petits systèmes, comme c'est vrai pour les grands systèmes. Parce qu'en bout de ligne, si vous êtes obligé de changer votre machine à crème glacée après 6 mois, ben vous allez voir que ça va vous coûter beaucoup plus cher que le filtre que vous auriez dû changer. Alors, c'est des exemples comme ça. Puis moi, je suis confiant que si on arrive avec des exemples comme vous venez de les énoncer, puis comme je viens de le faire avec la piscine dans la cour arrière, je pense que ça, au fond, qu'est-ce que ça change au fond? Moi, j'appelle ça le mindset. Hein? C'est la façon de penser. Parce qu'en bout de ligne, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des zéros. Puis vous me parlez de votre machine à crème glacée, mais vous savez, c'est le même mindset pour une usine ou un ouvrage d'eau usée ou d'eau potable. Donc, c'est vraiment un état d'esprit. Moi, j'appelle ça l'état d'esprit. Puis l'innovation, en passant, c'est beaucoup ça. Hein? Moi, on me pose la question, là. Ouais, mais qu'est-ce que c'est un système innovant? Qu'est-ce que c'est l'innovation? Puis là, on essaie, puis on tricote, puis on essaie de trouver des aspects techniques. Puis moi, je commence toujours par dire, l'innovation, c'est d'abord un état d'esprit. Si on est dans un état d'esprit du passé, puis d'essayer de refaire comme on a fait, on ne construira pas des systèmes comme on les concevait il y a 60 ans. Là. La réalité a changé, les changements climatiques sont présents. Il y a beaucoup plus, notre population augmente. Donc, il faut que nos gouvernements prennent conscience que les choses changent et ils ne peuvent pas être conçus et réalisés comme ça a été le cas dans les années 50 ou 60. Là.
Monsieur Bigras, ça a été un plaisir de discuter avec vous.
Ben, c'est un plaisir aussi.
Merci.
Au revoir.
Il est-tu incroyable, ce monsieur-là?
Ben oui.
Il est incroyable. C'est clair, c'est compréhensible. C'est simple aussi.
Ben, simple.
C'est à se demander pourquoi nos politiciens n'ont pas embarqué là-dedans depuis des décennies. Tu sais, je répète, là, ils sont souvent là pour nous faire la morale en disant « Vous consommez trop d'eau ». Puis de l'autre côté, les infrastructures qu'on n'a pas entretenues pendant des années perdent cette eau potable-là. Puis là, on nous arrive avec des statistiques qui sont pas bonnes, parce qu'on ne sait pas concrètement combien Jeff boit d'eau par jour. Parce que dans le système même, on perd 30 à 40 % de notre eau à la ville de Montréal.
Alors que la recette est tellement simple, puis elle est appliquée à n'importe quel gestionnaire de bâtiment. J'ai déjà géré des bâtiments dans le domaine communautaire. Tu sais c'est quoi que ton budget t'as sur les infrastructures? Ben la première priorité, quand tu regardes ton plan 5 ans, c'est de dire qu'est-ce que je vais avoir à réparer. Ça prend quel pourcentage de mon plan d'infrastructure?
Exact.
Fait que là, tu planifies toutes tes réparations. Après ça, tu regardes le montant qui te reste puis tu te dis qu'est-ce que je pourrais bien réinventer? Qu'est-ce que je pourrais bien améliorer? C'est un agrandissement? C'est-tu une salle qui est plus fonctionnelle comme elle l'est? Tu vas avoir à défoncer un mur? Tu vas avoir à modifier des choses? Puis ça aussi, tu te fais une planification de 5 ans. Puis à chaque année, tu revises tes priorités. Puis là, il y en a des fois que, oups, la réparation que j'avais prévue dans 3 ans, finalement, il faudrait que je la fasse cette année. Bon, ben l'aménagement que j'avais prévu pour telle salle, ben, elle va être repoussée. Parce que c'est la réparation en premier. C'est ça qui fait vivre ton bâtiment. Oui. Fait que je comprends pas pourquoi les gouvernements ont pas ce plan-là. Puis tu sais, quand on me parle, hey, on a un PQI à 160 milliards. Ouais, mais dans les faits, là, t'as 18 milliards, mettons, pour des nouveaux projets. Arrête de me faire croire que t'en as pour 160.
Exact.
Fais-moi quelque chose à 18. T'as pour 240 milliards de réparations, là, je nomme un chiffre en l'air. Ben ça, répare-le. T'as pas le choix. Ça fait partie de la vie, ça.
Donc, sous-financement chronique, détérioration rapide des réseaux de distribution et de traitement des eaux qui sont complètement devenus un goulot d'étranglement, entre autres pour ce qui est de la crise du logement. Puis les chiffres, là, on en parlait tantôt. Le Centre d'expertise de recherche en infrastructure urbaine estime à plus de 49 milliards de dollars le coût de remplacement des infrastructures d'eau à risque élevé et très élevé de défaillance au Québec.
C'est non, fou! C'est là. Ça, c'est fou!
La majorité des ouvrages de traitement d'eau potable du Québec ont dépassé leur durée de vie utile. La moyenne d'âge est de 49 ans. Leur durée de vie moyenne est de 33 ans. Pour les eaux usées, c'est à peine mieux, âgé de 34 ans pour une durée de vie de 36 ans. Et pour l'instant, il y a 10 % des infrastructures d'eau qui sont en mauvais ou très mauvais état. Puis on parle d'une facture épouvantable qui s'en vient, les amis.
C'est décourageant.
Le problème, c'est qu'on leur donne les clés du char.
C'est ça.
On dit, regarde, moi, là, je ne veux pas me casser la tête. Là. Je t'élis toi, je te mets au pouvoir, puis organise tout pour que tout fonctionne. Puis eux autres, ils arrivent en place, puis ils disent, ouais, OK, je vais m'organiser pour que tout fonctionne, mais il y a des budgets qui pourraient être intéressants pour faire en sorte que je ne serai pas juste là 4 ans.
Mm-hmm.
Moi, être là pour 2 mandats ou peut-être 3. Fait que là, c'est pas super sexy de changer l'usine d'eau potable. Je pourrais faire un beau parc, là.
Ouais.
Avec le même montant. Fait qu'on va faire un beau parc, puis on va faire une belle conférence de presse pour l'annoncer. Puis à la suite de tout ça, quand le parc sera prêt, on va mettre un beau ruban, là. Puis moi, je vais arriver avec mon gros ciseau. Il y a plein d'enfants qui vont être autour de moi. Les journalistes vont être là. Ils vont prendre le ciseau, ils vont couper le ruban. Puis Chris, ils vont donner mon nom à ce parc-là.
T'es en train de parler de la carrière de Gilles Lehoulier comme maire de Lévis. Non, non, mais c'est vrai, je t'explique. Moi, j'ai été sur le terrain pendant 2 ans. Ouais. Ben, pendant 2 ans, là, j'ai assisté à au moins 4 conférences de presse du maire Lehoulier dans un nouveau parc qu'il venait de créer parce qu'il redonnait l'accès au fleuve à la population. Fait qu'il a investi des millions et des millions de dollars là-dedans. Je vous l'avais promis, c'était une promesse électorale. Je vous l'ai dit quand je suis arrivé à mon premier mandat. Que l'accès au fleuve serait redonné à la population. J'ai tenu ma promesse. Mais pendant ce temps-là, ils mettaient 0$ dans l'usine de traitement d'eau.
Exact. Fait que là, à cette heure, à Lévis, t'as comme accès au fleuve un peu plus facilement.
Oui.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la sortie de la rivière Chaudière...
C'est ça.
Ben, on déverse ce qu'on n'est pas capable de traiter.
Fait que ce que t'as mis dans ta toilette, tu le vois dans le fleuve.
Ben, tu as accès.
Mais t'as accès. Hey, c'est toute beauté, hein?
Ah oui, c'est un cercle.
Putain, là, je dis Gilles Lehoulier parce que c'était facile comme exemple. Ouais. Mais on s'entend que c'est la très, très grande majorité des politiciens, malheureusement.
Mais ça devrait être dépolitisé. Pour ce qui est de l'entretien de nos infrastructures...
Je suis tellement d'accord.
Les politiciens ne devraient pas gérer ça. Ça devrait être... Non, regardez, c'est 50 millions, c'est 50 millions. Ouais, mais j'aimerais ça... Non, c'est 50 millions. C'est tout. C'est ça que ça va servir à la grandeur de la Ville de Québec.
T'sais, on a des vérificateurs, vérificatrices générales. On devrait être eux autres qui ont ce plan-là dans les mains avec les ingénieurs puis qui va chercher au Conseil de Trésor directement. Ouais. Flock, c'est ça pour les infrastructures. Ouais, mais il m'en restera pas assez pour mes projets. Hey, c'est ça la priorité.
Ben, c'était pas une joke, là. À tous les jours, j'avais des choses à cocher là, pour la maudite machine à crème glacée.
Ben, c'est sûr.
Puis là, je cochais. Puis j'avais mon manuel d'entretien. Je cochais. Puis là, il y a des petits rings en caoutchouc, là. Puis là, une fois que j'avais tout lavé ça, il fallait genre mettre mes petits rings en caoutchouc. Puis là, je prenais du lubrifiant.
Ah oui?
Je prenais du lubrifiant, puis là, je lubrifiais mes petits rings en caoutchouc. Puis après ça, je mettais ça sur le truc en stainless. Puis là, je réussissais à réintroduire le manchon. Puis là, après ça, OK, c'est beau, faut tout sanitiser ça. On sanitisait, puis après ça, on mettait la crème glacée, puis après ça, on se faisait un beau gros sundae une fois que tout ça, c'était prêt. Mais c'était rigoureux, l'entretien, pour une seule machine à cornet.
T'imagines?
Puis j'avais 14-15 ans, à peu près, là, puis je m'occupais de ça. Mais à la ville, on dirait que les manuels d'entretien, on les a laissés de côté parce qu'il n'y a plus d'argent disponible.
Ben, c'est ça.
Fait qu'on attend que ça pète, puis quand ça pète, ben, on la remplace.
Oui, puis quand ça pète, ça fait un beau dégât comme on a vu hier dans les rues de Québec.
9:45, vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021. Bon 1er avril! Marceau!